Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre cinquième podcast consacré aujourd'hui à Jiazhangke à l'occasion de la sortie de A Touch of Sin le 11 décembre. Pour parler avec moi de la carrière de Jiazhangke et tout particulièrement de son dernier film A Touch of Sin, nous accueillons notre ami Sidi Sako de Ceci dit au bas mot. Salut Sidi, comment ça va?
Bah salut, ça va plutôt pas mal, ça va. J'espère qu'on fera aussi bien que la première fois.
Donc vous étiez là avec nous sur Aung San Suu, sur le podcast numéro 3. Et j'accueille aussi, bien sûr, Jérémy Kaufmann, qui était là sur... C'était quoi ton dernier podcast, Jérémy, d'ailleurs?
C'était Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho, ouais, le mois dernier.
Le mois dernier.
Et enfin, Yannick Vaness, en direct de Belgique. Salut Yannick.
Salut, comment ça va?
Bah ça va, je crois que tu les as tous faits depuis Bong Joon-ho. Enfin, il n'y a eu que des BZ en même temps, donc...
Bah, en fait, à part celui sur Aung San Suu, j'étais là sur tous, effectivement.
Absolument. Donc, A Touch of Sin, c'est quatre histoires de la violence en Chine, quatre destins entrecroisés qui dressent le portrait d'une société malade, qui sort en salle donc le 11 décembre, qui est sorti, vu qu'on est le 13 décembre. Est-ce que ce film vous a touché, Jérémy?
Excusez-moi, je buvais ma tisane. Beaucoup touché. Déjà, bah, je l'ai mis numéro 1 de mon top annuel. Et depuis Cannes, en fait, il n'y a pas bougé. C'était la grosse claque. Esthétiquement, c'était sublime. C'était vraiment la grosse claque. Voilà. Donc, on en reparlera après.
Tu l'as découvert à Cannes,
donc première vision à Cannes, après deuxième vision en Projo Press. Et non, c'est vraiment c'est la grosse claque de l'année.
Yannick, est-ce que tu partages cet enthousiasme?
Totalement. Moi, je dirais même pas touché, mais carrément transpercé. Alors, j'ai pas encore fait de top annuel, donc je sais pas, mais je pense qu'il sera en tout cas en très bonne position. Et effectivement, c'est un film vraiment magnifique et bouleversant que je peux difficilement oublier.
Et quant à toi, Sidi, est-ce que ton numéro 1 cette année sera A Touch of Sin?
S'il arrive numéro 10 de mon top, c'est que vraiment j'aurais pas vu beaucoup de bons films dans l'année, disons.
Donc, il fallait une voix moins.
Bah voilà.
Ça
donne un indice quant à mon avis sur ce film intéressant au demeurant, mais bon, on aura l'occasion de développer, je crois. Voilà.
Généralement, on dit qu'on met une petite comédie. Enfin, moi, c'est ce que je fais quand je fais mes top 10. Je mets un film un peu moins. Voilà, un peu moins important, soit un blockbuster qui est plutôt pas mal, ça pourrait être Star Trek, ou une petite comédie, ou un Judd Apatow. Ouais. Donc bon, là, avec A Touch of Sin, on est très très loin de la comédie. Moi, il sera pas du tout dixième de mon top, je pense qu'il sera premier sur un top asiatique. On reviendra sur le prochain podcast, sur le bilan 2013. Mais je pense qu'il y a eu Shokuzai cette année de Kurosawa, qui était une énorme claque, et A Touch of Sin qui est assez... qui moi aussi m'a vraiment fasciné. J'ai découvert à Cannes avec Jérémy, je l'ai revu ensuite en projection de presse, et c'est vrai que j'ai encore l'impression d'avoir uniquement effleuré le film. Je pense que je vais aller le revoir, et tellement il est plein de cinéma, d'idées, de sens, de propositions sur la vie, sur le réel. Moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Également. Et c'est vrai que je vais d'abord me retourner vers toi, Sidi, ouais. Pour savoir effectivement ce qui t'a gêné, parce qu'on en reparlera après, mais il me semble que tu aimes plutôt bien le cinéma de Jiazhangke. Oui. Quel a été le point de rupture dans A Touch of Sin?
Alors, j'étais pas à Cannes cette année, mais bon, voilà, j'ai vu quelques extraits qui m'ont intrigué, voilà, des scènes d'extrême violence qui m'ont fait penser à Tarantino. Là, j'utilise vraiment un exemple très simple, voilà, de violence un peu hyperbolique. Voilà, donc ça m'a intrigué de voir ce que le réalisateur de films non dénué de violence. Il y a toujours eu une part de cruauté dans le cinéma de Jiazhangke, mais cette fois-ci, apparemment, il avait envie de s'attaquer à une représentation très frontale, très 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 cash et très excessive. Donc voilà, j'y suis allé vraiment avec une certaine curiosité. Et que dire, quand vous parlez d'émotion et de bouleversement, je me demande si j'ai vu le même film, les gars, parce que je n'ai vu qu'un exercice de style, moi. Ça, je suis resté totalement en dehors, et j'ai simplement constaté qu'il avait envie de s'amuser un petit peu à faire son petit film de genre. Voilà, ça m'a pas surpris une seule seconde. Il y a certes une certaine virtuosité, il y a certes des scènes assez anthologiques, mais j'ai eu l'impression tout du long de me dire bon, bah alors est-ce qu'il va le montrer, est-ce qu'il va pas le montrer? Le vieillard va taper mademoiselle 10 fois. Bon, on sait que mademoiselle a quelque chose dans son sac. Il va forcément se passer quelque chose au vu de ce que l'on a vu précédemment. Donc voilà, je suis resté dans cet état permanent de prédiction de ce qui allait arriver. Et je pense que c'est jamais très bon signe pour un spectateur d'être simplement dans cette attente du coup qui viendra forcément. On parlait en préparant, juste avant de commencer l'enregistrement, on parlait d'un film, d'un cinéaste, Amat Escalante, qui a été récompensé du prix de la mise en scène à Cannes. Et son précédent film, qui s'appelait Los Bastardos, avait le même problème pour moi. On y voyait deux Chicanos qui s'introduisaient dans la maison d'une famille américaine avec un pistolet. Et pendant tout le film, donc, ils étaient en train de s'amuser avec la propriétaire des lieux, et on se doutait qu'il allait se passer quelque chose, que cette arme n'était pas montrée pour rien. Dans Touch of Sin, il y a un peu le même problème, quoi. J'ai l'impression que il nous montre un petit peu l'objet qui va forcément provoquer, in fine, à la fin de chaque sketch, enfin en tout cas à la fin du sketch avec Zhao Tao. Voilà, je crois que vous avez vu le film à l'heure où vous écoutez ce podcast. Zhao Tao
On
a un
espère pour vous.
couteau dans la main, et on se doute bien que ce couteau que le réalisateur nous montre quand même assez clairement aura un rôle à jouer. Et au vu des deux précédents sketchs, voilà qu'on sait un petit peu que ce qui nous sera montré sera, disons,
En
assez
fait, tu as trouvé le film un peu programmatique. C'est-à-dire, une
très
fois qu'on a
programmatique.
passé les deux premières, voilà, les deux premières histoires, on a compris la structure, et comme la structure est répétitive,
Voilà.
tu attendais le.
Disons qu'il y a un effet de surprise au premier sketch, même si
On s'y attend quand
voilà,
même.
on s'y attend pas. Et pour moi, voilà quoi, ça nuit peut-être un petit peu, pour moi en tout cas, à la surprise quant à la suite, quoi. J'ai l'impression d'avoir tout vu un peu
Moi,
trop tôt.
j'ai l'impression que justement l'effet de surprise est présent dans la toute première scène qui, à mon sens, contient aussi le film. C'est-à-dire, on arrive, on sait qu'on est dans un film de Jason Keough, c'est très bien filmé, il y a cette route en Chine, et tout d'un coup, il va filmer un gunfight. Enfin, il va filmer un gunfight. Une fois le gunfight terminé, on va se retrouver devant un autre personnage, il va y avoir une explosion qui va pas avoir de signification tout de suite dans le film. Et j'ai l'impression que l'élément de surprise, il est directement là, et il est désamorcé par la suite. Que pour moi, ça n'a pas eu trop de. Je ne me suis pas posé la même question parce que ça n'avait plus trop d'intérêt. C'était désamorcé par cette première scène. On savait que la violence allait arriver à un certain moment donné dans l'histoire. Alors il y a un peu cette surprise dans la première histoire. Le personnage lui-même n'est pas sûr et hésite à utiliser la violence. Et une fois qu'on a compris le mécanisme qui est en place, l'élément, en tout cas de surprise, ne m'a pas semblé aussi important que ça. Je me suis vraiment laissé porter alors, à la fois par l'histoire et les symboles de l'histoire qu'il raconte, et c'est plutôt ça qui m'a touché, plus que par l'exercice de style qui, à mon sens, était désamorcé par cette première scène. Je sais pas.
Mais la première scène montrait quand même une violence très, très sèche, mais relativement sobre, hein, je trouve. Moi, c'est plus l'excès. C'est cette espèce de plaisir manifeste de Jason Key à filmer des cervelles qui explosent plein écran. Voilà, c'est ce que non, c'est pas forcément. Effectivement, on voit lors de la première scène, c'est ce motard qui bute un petit peu les jeunes gars qui le
C'est
cherchent.
une violence libératrice, à la fois pour son cinéma, j'ai l'impression, et pour les personnages. Enfin, ça va, ce plaisir de filmer cette violence, à mon avis, est lié aussi à
Et on sait qu'il est fan, voilà, il est fan de John Woo. On sait qu'il est, voilà, qu'il aime ce cinéma-là et que, voilà, et puis il se lâche, ouais, il se lâche. Je vois pas quoi. Ça détruit pas la force du ça amenuise pas la force du propos. J'ai l'impression que, ouais, il se fait vraiment plaisir sur le coup, mais on y éprouve quand même, en tant qu'amoureux, si on est amoureux de films de genre, on y éprouve une certaine jouissance, quoi, vraiment. Voilà, la scène où. C'était le premier segment où il arrive avec son fusil à pompe et qui démonte tous les patrons. On y éprouve, il y a une certaine, voilà, c'est une libération dans la violence, quoi.
Ouais, mais c'est cette violence.
Ça t'a gêné alors, en fait.
Moi, la violence dans un film assumé comme gore, moi, ça me va totalement. La violence, même chez Tarantino, peut m'aller à partir du moment où il nous expose un monde, comment on va dire, un peu parallèle, un monde un peu irréel, quelque chose comme ça. La violence dans un cadre un petit peu plus situé.
On est dans un monde purement cinématographique.
J'ai pas trouvé le film si violent de manière graphique, personnellement. Oui, dans le premier segment, parce que j'ai un peu de mal à penser en termes de sketch, parce que pour moi, les histoires sont assez interconnectées. Mais il est évident que quand le personnage utilise son fusil et tout, il y a quand même du sang qui gicle. Mais j'ai pas trouvé ça tellement violent, tellement barbare. On est très loin d'un débordement de Tarantino. On est très loin de son esthétisme. On est très loin de sa coolitude dans la violence. Là, c'est pour moi, c'est plutôt un éclair de sang, mais qui sert totalement le propos et qui est pas si choquant, traumatisant ou quoi que sais-je.
C'est moins vain, quoi. C'est moins vain que Tarantino. Il a beaucoup de choses à dire, Jason Keu, quoi, sur le
moins vain et aussi moins beau. Je veux dire, c'est pas le but, c'est pas une esthétisation de la violence.
Alors c'est vrai qu'il y a ce côté de libération des personnages dans la violence, hein. Je suis d'accord avec toi. Après, le plaisir qui prend le spectateur est quand même assez ambigu, parce que même les actions des personnages, effectivement il y a ce côté, on attend la violence, elle arrive, il y a quelque chose d'assez jouissif à filmer un vrai film de genre à la manière de Jason Keu. En même temps, on n'est pas non plus du côté des personnages qui commettent l'acte de violence nécessairement.
Non, mais c'est un peu moins vrai pour Zawatao. C'est d'un point de vue vraiment cinématographique où on sait, quoi, dès le début du film, on sait qu'on est dans un film de genre et que on attend qu'il se passe quelque chose, on attend la fusillade, on attend que ça pète et c'est dans ce sens-là qu'il y a la jouissance, mais pas idéologiquement, ou pas on n'attend pas, on n'est pas, c'est pas dans un film de Charles Bronson, on n'est pas il veut pas se faire justice ou on n'est pas de son côté, clairement.
Ouais, c'est plus ambigu, ouais.
Voilà,
mais j'ai pas vraiment ressenti ça, moi, pour ma part. En tant que vrai amoureux, vrai fan de cinéma de genre, j'en bouffe à toutes les sauces, j'ai vraiment pas eu l'impression d'être dans du cinéma de genre, mais plutôt dans un drame dur et violent. Mais à aucun moment enfin, en tout cas pour moi, il y a cette attente, ce désir de voir éclater la violence. On la voit survenir, mais elle est toujours brute, elle est toujours désagréable. Il y a pas du tout la même démarche ou le même ressenti pour le spectateur que devant un film de genre, un film d'horreur ou un polar hard-boiled.
Oui, il y a cette ambiguïté face à la violence quand on prend la première partie du film. C'est vrai qu'on se demande quand il tue le comptable. Enfin, on ne sait pas si le comptable est vraiment impliqué dans ses magouilles. Il se trouve que le personnage a raison. On ne sait pas non plus s'il a raison parce que juste il est paranoïaque, envieux. Enfin, on ne sait pas pour quelle raison il arrive à condamner ce qu'il y a autour de lui. Il y a une pauvre femme qui passe par là, elle se prend une balle, elle meurt aussi. Donc il y a une certaine forme d'ambiguïté par rapport à ça. Après aussi par rapport à ce que tu disais, Sidi, et ce que tu dis, Yannick, aussi sur le cinéma de genre, je pense qu'on est vraiment à la croisée du cinéma de Jason Keu et du cinéma de genre. C'est vrai que j'avais vu sa masterclass où il expliquait, on le sait dans son cinéma, que depuis tout petit, les films qu'il allait voir, enfin quand il était ado, les films qu'il allait voir, c'était les films de Hong Kong, c'était les films de Sabre, c'était les polars, c'était des films qui venaient de Taïwan, du cinéma populaire. Et c'est qu'après qu'il a découvert le cinéma de la cinquième génération, les premiers films, donc qui montraient la réalité de la vie en Chine, et qu'il a voulu montrer ce qu'étaient vraiment des vrais gens en Chine, et filmer le quotidien chinois. Et là, j'ai l'impression qu'avec Tochowsin, il arrive à concilier les deux. C'est-à-dire qu'il rend hommage au film qu'il voyait dans son adolescence. Et c'est en ça qu'à mon sens, il est quand même dans un film de genre. Il reprend des archétypes du wuxia, du polar, même un peu avec certains personnages. Et en même temps, il décrit quand même la société actuelle de manière réaliste. Mais dans ces explosions de violence, il me semble qu'on est justement entre les deux. Donc on est autant dans un monde fantasmé qui est celui du cinéma de genre comme on peut l'être chez Tarantino, que dans un monde où la violence a une vraie implication sociale et des vraies conséquences pour les personnages.
Oui, il y a toujours un rappel, même si on est dans le pur, voilà, dans le Grand Guignol presque, à la limite, hein, dans la séquence du fusil à pompe par exemple, il y a toujours ce petit rappel. Voilà, il y a par exemple la scène où on voit le vieillard qui tape sur son cheval sans arrêt, etc. C'est très symbolique, mais en même temps, ça nous rappelle vraiment la condition, voilà, la condition des gens en Chine. Et il nous rappelle sans arrêt qu'il y a une réalité derrière et que c'est pas que un film de genre, et c'est pas que son wuxia ou son polar, c'est aussi un film sur la Chine d'aujourd'hui.
Bah, en tout cas, c'est les deux,
c'est les
quoi.
deux, c'est une,
C'est
ouais
pas
c'est une
que,
c'est, c'est...
enfin,
oui non mais je comprends ce que tu veux dire, c'est vraiment le c'est une
Il
somme
n'y a
quoi.
pas de dédain,
Non non,
justement,
c'est vrai,
il adore,
c'est ça.
on sent qu'il adore le film de genre, quoi. Donc
C'est clair que voilà, je pense que vous avez raison de ce point de vue-là. Ce film est un vrai défi, je pense, effectivement, pour lui. Il a vraiment, sans forcément nier, effectivement, le souci qui a toujours été le sien d'observer le sort des individus dans une Chine en mouvement, dans une Chine ch changeante. Il a voulu, effectivement, cette fois-ci, leur donner une sorte de, je dirais pas de super pouvoir, mais en faire des personnages qui prennent les armes. De mémoire, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de scène de ce genre dans son cinéma avant. Enfin, je sais pas.
Non, j'ai pas l'impression non plus,
Ouais.
justement, il n'y avait pas de moyen vraiment de se révolter pour les
C'est
personnages.
ça, il subissait.
Ah, peut-être dans Still Life, mais il faudrait le revoir, il y a un personnage qui est fan de Chow Yun-fat, hein, et il me semble qu'il se fait tabasser à mort, et qu'il finit assez mal. Mais en tout cas, justement, il me semble que ça reste hors champ. On voit pas la scène, et qu'il n'a pas non plus les armes du film de genre pour pouvoir se défendre. Ouais.
Maintenant, mon souci se situerait encore au-delà même de la question de la violence, il se situerait dans cette idée de faire un grand film pessimiste. C'est-à-dire que la logique du film, c'est la logique du coup pour coup. Ces personnages rendent à ceux qui les malmènent toute la violence qu'ils reçoivent. Le héros du premier sketch se fait taper sur la tronche au départ à coups de marteau, je crois.
Coup de pelle.
À coups de pelle, voilà, donc voilà, sa tempe saigne. Et donc à la fin, on peut dire que ce débordement de violence est une manière de dire, voilà quoi, je vais te rendre au centuple tout ce que tu m'as fait, tout le mal que tu m'as fait. C'est un petit peu pareil avec le personnage de Zhao Tao. J'ai l'impression qu'il a voulu faire un film aussi pessimiste que ce qu'il faisait avant, mais je sais pas, il y a une manière de complaisance pour moi dans cette manière de vouloir dire que le sang ne peut pas ne pas couler. Voilà, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose d'un petit peu régressif de sa part. Voilà, je.
Tous les personnages ne rendent pas les coups, loin s'en faut. Tu as par exemple le motard du début, qu'on voit par la suite, qui lui a une démarche agressive juste parce que c'est le seul moment où il s'ennuie pas, donc qui donne des coups sans même en recevoir auparavant. Et on a ce jeune personnage qui s'en prend plein la poire tout le film et qui finalement se jette du haut d'un balcon parce que c'est le seul moyen de s'enfuir et qu'aura jamais donné un seul coup de tout le film.
Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans ces accès de violence du côté des personnages. On est, ça on va pouvoir en reparler dans tout le cinéma de Jia Zhangke, qui est un cinéaste qui observe, on verra par rapport à la force de son discours où il se situe, mais en tout cas il montre des situations et c'est pas un état, en tout cas le coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas quelque chose avec lequel il est forcément d'accord, et c'est au spectateur aussi de se faire son avis là-dessus. En tout cas, on prend pas forcément position pour ce qui est décrit dans le film.
Mais on se
Et
positionne où alors finalement?
bah, on se positionne, à mon sens, on observateur, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce pessimisme qui est très important. Après, il y a une ambiguïté par rapport aux actions de chaque personnage. On sait pas, enfin, en tout cas, on se dit pas à un moment. Ces personnages ont raison de faire ça. On dit juste, ces personnages sont acculés à tel point qu'ils n'ont pas d'autre recours. On comprend pourquoi, en fait, ils ont recours à la violence. Je pense qu'on est dans une situation de compréhension, mais pas forcément d'acceptation, où on dirait plus d'empathie avec les personnages. On comprend voilà, le point de non-retour auquel ils arrivent. On n'est pas obligé de les excuser, on n'est pas obligé d'être avec eux. On essaye juste d'être dans la peau de ces personnages pour comprendre ce qui les a amenés à un tel déchaînement de violence, qui peut être aussi effectivement une violence qui est subie, ou en tout cas la dernière scène, c'est une scène de suicide. Donc c'est juste quelque chose qui nous amène une compréhension par rapport à des choses qui existent en Chine. Il me semble que Jia Zhangke est parti de, à la fois de... Alors il a plusieurs projets de films, mais je crois qu'il parlait de faire un Wuxia, qu'il va d'ailleurs faire. Mais ce film vient de l'observation de faits divers en Chine et de la recrudescence de certains faits divers qui avaient trait à la violence. Et je crois que vraiment le positionnement qu'il a, et donc qu'on a en tant que spectateur, c'est ce positionnement d'observateur et d'essayer de comprendre ce qui se passe en Chine actuellement, à mon avis ça se passe partout dans le monde, pour que des gens agissent de telle façon.
Ah, tu ne l'as... là, Sidi, il est calmé, là.
Sidi va revenir, ne t'inquiète pas.
Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que... Puis on, ça, voilà, cette loi du talion là, que tu évoquais, on le ressent vraiment dans les deux premiers segments, surtout, où c'est vraiment très appuyé. Mais je pense qu'il n'y a aucune... ouais, il n'y a pas de... Il ne nous dit pas, bon, bah oui, voilà, quand le sang appelle le sang. Ou... Non, je pense qu'il vraiment, il se pose là, il observe et il se dit... Pourquoi, comment on peut arriver à ces extrémités en Chine aujourd'hui, comment ça peut se passer, ce genre de choses, quoi.
Vous ressentez ce questionnement en regardant le film? Moi,
totalement. Oui.
Moi, j'ai été assez impressionné par le. J'ai trouvé que la caméra du réalisateur était vraiment très neutre, que comme le dit Jérémy et Victor. Il y avait vraiment pas de positionnement, que le réalisateur filmait ses personnages et laisse le spectateur dans un rôle de voyeurisme, à lui d'accepter d'être bouleversé ou quoi. Je veux dire, on peut difficilement, par exemple, justement le personnage du motard qu'on retrouve longuement après, quand on le voit abattre une femme dans la rue pour lui piquer son sac, même pas parce qu'il a besoin de pognon, mais juste parce que c'est le seul moment où il se sent vivant, on peut pas l'excuser, on peut pas le pardonner, on peut même pas ressentir d'empathie pour lui. C'est juste un fait divers que le spectateur se prend en pleine gueule, et je trouve ça magnifique de voir cette scène-là. Le spectateur se retrouve voyeur de ça, et on peut pas ressortir indemne d'une telle scène.
Moi, je dirais pas voyeur, je dirais témoin. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas dans un positionnement de voyeur, parce que justement, il contextualise énormément ce qui va amener à cette violence. Donc, à mon avis, on est plus témoin d'un processus que vraiment voyeur, juste d'un acte, comme ça peut l'être dans un... Enfin, ça peut la différence entre la description d'un fait divers dans un journal et là, un processus artistique qui va nous faire comprendre ce qui amène à ce fait divers.
Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est le genre de personne qu'on voit dans un fait divers. On se dit, putain, ce mec là c'est un monstre, c'est le mec que tu vois à la page des faits divers, et on nous le montre avec sa famille. On voit qu'il a un fils, on voit qu'il traverse la Chine, qu'il travaille, on nous met son background, on voit un peu comment il vit, etc. Et pourtant, bah, on n'a pas d'empathie pour lui, parce que il y a les faits qui nous sont montrés clairement, quoi. On voit qu'il a une famille, on voit que c'est on l'humanise, mais on n'excuse pas ce qui se fait, et on n'a pas forcément plus d'empathie pour lui, quoi.
Bon, bah, vu qu'on n'a pas d'empathie, je pense qu'on va passer à la deuxième partie sur Jia Zhangke. Bon, on va revenir sur, je pense, pas mal sur Touch of Sin, parce que c'est un film qui pose énormément de questions, et peut-être un peu voir sa filmographie à travers ce film. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le film, donc à tout de suite.